Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 janvier 2023, et oui. Et dans cette émission autour de l'actualité en Mayenne aujourd'hui, on va parler du centre-ville lavallois qui connaît forcément depuis quelques mois déjà des travaux d'aménagement avec cette place du 11 novembre qui va être entièrement remodulée pour laisser place à des halles gourmandes d'ici 2025. Les fouilles archéologiques ont commencé hier, justement, sur cette place. On va en parler avec l'une des archéologues en charge de ce chantier. Et puis, on va aussi revenir sur le commerce de centre-ville avec le président de l'association Laval Cœur de Commerce. Après, justement, le marché de Noël qui est toujours un moment important pour ce centre-ville, comment se portent ces commerces et plus globalement, quelles sont les fermetures et ouvertures des dernières semaines et des prochains mois. On en parle donc avec le président de l'association. Et puis, comme chaque mardi, vous entendrez la chronique de Donatien qui aujourd'hui nous rappellera l'importance de distinguer le second du deuxième. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir sa chronique tout en musique, comme d'habitude, évidemment. Mais donc, je vous le disais, aujourd'hui, on va beaucoup parler de Laval et du centre-ville de Laval, avec notamment cette enveloppe débloquée par Laval Économie et Laval Emploi de 300 000 euros pour aider les commerçants dans leurs travaux d'aménagement. Alors bien sûr, ça ne concerne pas que le centre-ville, mais les commerces du centre-ville peuvent aussi y avoir droit, sachant qu'ils ont, on l'a dit, profité aussi du marché de Noël et des illuminations qui sont toujours un moment important pour ces commerces du centre-ville lavallois et qu'ils cohabitent aussi avec différents travaux d'aménagement de cette place du 11 novembre qui va être remodifiée avec notamment une rue un petit peu plus en décalage par rapport à cette place du 11 novembre dont nous parle Mathieu Frodin, c'est le président de l'association Laval Cœur de Commerce, donc des commerçants du centre-ville, qui nous parle de la rue du Val-de-Mayenne qui, bien qu'excentrée, arrive à tirer son épingle du jeu.
Effectivement, on est sur une rue qui est relativement sombre, on n'est pas sur des grands axes où on pourrait avoir rue Général de Gaulle, rue de la Paix qui sont beaucoup plus lumineux, beaucoup plus faciles d'accès. Et pour autant, et c'est là où ça devrait nous donner des idées, pour autant ils ont une très grosse influence. Donc nous commerçants qui sommes sur des axes dits finalement prioritaires, on devrait aussi mettre des choses en place et pas toujours attendre tout de la municipalité ou des pouvoirs publics. C'est vraiment à nous d'entreprendre et de mettre des solutions en place pour faire venir les clients dans nos boutiques. Ouais, on a toujours des commerçants qui sont insatisfaits, et je peux l'entendre. Et, on a beaucoup de commerçants de cette année de la rue de la Paix qui disent que voilà, c'est de l'autre côté de la rive avec le marché de Noël, la place aussi qui est en train de se faire, donc avec ce nouveau bâtiment qui va être relativement attractif. Voilà, donc ils nous disent qu'il y a une rive qui est lésée plus que d'autres, donc. C'est toujours compliqué de trouver un bon compromis. Hein. On a quand même la Mayenne qui passe entre les deux rives et ça a toujours malheureusement été le cas et ça ne changera pas. Donc je dis à nous d'être acteurs et puis de faire en sorte de faire venir les clients dans nos boutiques. Alors, il y a eu des choses, des enseignes qui sont plutôt nationales qui ont fermé. Donc effectivement, ce n'est pas lié au commerce lavallois, type Camailleux. Il y a eu Athénaïs qui est une enseigne historique où malheureusement, ce n'est pas non plus du fait de la conjoncture. Mais il y a des choses qui reviennent et c'est ça qui est positif. Rue des Portées, il y a des nouvelles enseignes. En bas de la rue des Portées aussi. Non, il y a des nouvelles enseignes qui vont arriver, des belles enseignes, des enseignes dynamiques. Donc malheureusement, c'est aussi en fonction des d'autres façons de consommer. Il y a des enseignes qui subissent un peu plus la concurrence des fois d'Internet par leur offre, par leur façon de consommer. Donc il y a des nouvelles enseignes qui arrivent et c'est côté quand même plutôt rassurant. Donc non, je suis quand même relativement objectif sur le commerce de proximité. On a quand même encore des belles années devant nous à vivre.
Et parmi les ouvertures prévues dans les prochaines semaines, celle de la chocolaterie Bélanger qui ouvrira mi-mars, place du 11 novembre, en bas de la rue des Déportés. Sachant que Vianney Bélanger, le chocolatier, est donc originaire de la Mayenne. Alors, son ouverture, donc à la fois de la boutique et de l'espace Salonté, est attendu donc d'ici mi-mars. C'est ce qu'on sait depuis que l'enregistrement a été fait, puisqu'à ce moment-là, ce n'était pas encore officiel. On va faire une petite pause en musique avec The Arcadian Wild Hay Runner, qu'on écoute juste avant de se plonger, c'est le cas de le dire, dans les fouilles archéologiques de cette place du 11 novembre.
Whatever you need is on the way, from the absurd to the insane. Remember, I'm a volunteer. I know your people have people, and I know this should make my day. There's no one to my rather spend my afternoon than with an ego that can fill a room. But still all I hear. You better run fast, get it done, even if it takes all night. I don't know what else you've been told, but I'm above that. And if I change my mind, it'll be alright. It's not like you guys will ever be. Run fast, don't forget who I am. And I don't ask twice, why you're out of it, would you mind to read mine? Cause I needed that last week, but take your time. It's not like I guys will ever be. Better run fast, get it done, even if it takes all night. I don't know what else you've been told, but I'm above that. And if I change my mind, it'll be alright. It's not like you guys are meant to be. Run fast, don't forget who I am. And I don't ask twice, why you're out of it, you mind to read mine? Cause I needed that last week, but take your time. It's not like I got somewhere to be. I've got somewhere to be.
I'll never get there.
And I'll never get there while you're stepping on.
Stepping on me.
Beneath your vanity. So why do I keep running?
Why do I keep running?
Why do I keep
get it done, even if it takes all night. I don't know what else you've been told, but I'm above that. And if I change my mind, it'll be alright. It's not like run fast, don't forget who I am. And I don't ask twice, why you're out of it, you mind to read mine? Cause I needed that last week, but take your time. It's not like I got somewhere to be.
Hey Runner, The Arcadian Wild. Ouh là là, compliqué à prononcer pour moi. Évidemment, vous êtes toujours dans l'agité du local sur l'autre radio. Et on va rester sur ce centre-ville, et j'allais dire cette place du 11 novembre à Laval, où les travaux, le grand chantier a réellement démarré début janvier, il y a quelques jours finalement, avec une première phase de travaux de 6 mois, travaux qui s'achèveront d'ici l'été 2025. Mais en tout cas, là, on va surtout s'intéresser à cette première phase de travaux qui a démarré il y a 2 semaines. Et notamment, parmi cette phase de travaux, on va encore zoomer un petit peu plus sur les fouilles archéologiques qui, elles, ont démarré hier, fouilles archéologiques sur cette place du 11 novembre, sur lesquelles vont travailler une quinzaine d'archéologues de la ville pendant 6 mois jusqu'au mois de juillet pour étudier le sous-sol de la ville. Ils pourront aller jusqu'à 5 mètres de profondeur et vont fouiller un petit peu moins de la moitié de la place. Ça permettra justement de mettre à jour des vestiges allant jusqu'au Moyen-Âge finalement, et puis aussi sur des choses un petit peu plus récentes datant du 18e et du 19e siècle. Mais je ne vais pas trop vous en dire puisque je ne suis pas clairement la mieux placée pour en parler. On va surtout entendre l'une des archéologues en charge justement de la médiation autour de ce chantier de fouilles de la place du 11 novembre à Laval.
Je suis Louise Boulanger et je travaille au service d'archéologie de la ville de Laval.
Pour ce projet, notamment autour des travaux de la place du 11 novembre, des travaux qui ont commencé hier, lundi 16 janvier, c'est ça ou pas tout à fait ?
Si, donc le chantier de fouilles a bien commencé lundi, donc là c'est la mise en place. Il y a encore des détails techniques à régler, mais le chantier de fouilles a bien commencé et donc il va durer jusqu'au début de juillet 2023.
On va remettre les choses dans leur contexte, sachant que ce chantier donc, de fouilles archéologiques, il a commencé et il existe parce qu'il y a donc ces travaux de réaménagement de la place du 11 novembre, avec donc vraiment une refonte totale de cette place. Lorsque les élus de la ville de Laval donc, ont lancé ce grand projet de refonte de la place du 11 novembre, forcément, dans ces cas-là, il y a des fouilles archéologiques qui sont faites, c'est obligatoire. Comment ça se passe dans ces cas-là, la procédure ?
Alors, du coup, quand il y a un projet d'aménagement, donc tel que réaménager une place de centre-ville, on va d'abord faire appel aux archéologues pour faire un diagnostic. Donc, c'est ce qui a eu lieu en 2019. Et en fait, c'est un peu le même principe qu'une fouille, mais sur des très petites surfaces. On fait des tranchées, donc toujours à la pelle mécanique. Mais là, le diagnostic qui a eu lieu, il a pu sonder seulement 3% de la place. Donc en fait, c'est une toute petite fenêtre qui permet de déterminer, déjà, s'il y a des vestiges. Mais donc là, on est en centre-ville, on connaît un peu déjà l'histoire de Laval, donc on se doutait qu'il allait y avoir quelque chose. Mais déjà, voilà, s'il y a des vestiges, à quelle profondeur ils sont, de quelle nature. Et donc, ça va permettre d'évaluer en fait, les besoins dont on va avoir pour la fouille 2, combien de temps, avec combien de personnes, quels moyens, etc.
Ce diagnostic, c'est vraiment votre document de départ, de base, qui est très important. Quelles ont été justement ces conclusions de ce diagnostic réalisé en 2019 ?
Alors, donc ça a été extrêmement intéressant. Enfin, ça promet vraiment une belle fouille, puisque en fait, il y a eu donc des sondages faits à la pelle mécanique, ainsi que des carottages pour faire des sondages géomorphologiques. Et donc, ça va permettre d'étudier vraiment tout l'environnement de Laval. On va pouvoir étudier donc le couvert végétal, et puis la manière dont les strates de sol se sont agencées. Et en fait, ce qu'on a pu déterminer, ce qu'on savait déjà avant, via des textes, via des plans, c'est qu'en fait le cours actuel de la Mayenne, donc là où la Mayenne passe au niveau de la place du 11 novembre, elle passe à cet endroit-là seulement depuis le 19e. En fait, avant, il y avait un méandre qui passait justement en plein milieu de la place du 11 novembre. Donc pour nous, ça va être très intéressant puisqu'on a toutes les couches qui vont de l'ancien chenal de la Mayenne, qui sont encore en eau, qui sont encore des couches très humides, donc ça va bien conserver tous les vestiges organiques. Voilà, donc le bois, le cuir, les graines, les charbons, etc.
Ça veut dire qu'on est à quelle profondeur par rapport au sol, pour qu'on se rende compte à peu près ?
Eh bien, c'est très profond, puisqu'en fait, la place telle qu'on la connaît actuellement, elle est le résultat de plusieurs étapes de remblaiement, justement pour l'assécher, parce qu'en fait, il y a donc le méandre qui passait à cet endroit-là, plus un ruisseau qui descendait à peu près à l'emplacement de la rue du Général de Gaulle, qui est canalisé aujourd'hui. Mais du coup, il faut se dire que au tout départ, avant voilà, on va dire l'intervention humaine, ou du coup des travaux que les humains ont pu faire pour assécher, bah, c'était vraiment une zone marécageuse. Et donc au 19e, on a plusieurs étapes de remblaiement, et du coup on a 3 à 4 voire 5 mètres de remblai par moment. Au-delà voilà, découvrir l'ancien chenal de la Mayenne, il y a vraiment plein d'autres choses qu'on va pouvoir mettre au jour, notamment pour l'époque médiévale. L'époque de la guerre de Cent Ans, on sait qu'on a notamment une tour de l'enceinte du XVe siècle, qui est plus du tout visible aujourd'hui. Mais du coup, on sait que dans l'emprise de la Fouille, il y a une tour qui s'appelle la Tour du Diable et qui devait faire partie d'un ensemble, donc d'un ensemble défensif d'une enceinte qui longeait la Mayenne, mais ça devait être aussi l'emplacement d'une porte, donc une porte de la ville, une porte d'entrée de la ville, et aussi un boulevard d'artillerie. Donc en fait, on a vraiment énormément de constructions militaires défensives qui sont probablement très bien conservées. Donc ça va être assez intéressant, et surtout qu'on n'a pas de... on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Du coup, on sait que ça peut exister, que logiquement, c'est ce qu'on devrait trouver, mais en fait, c'est vraiment qu'en fouillant qu'on va pouvoir comprendre ça.
Oui, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le diagnostic, il a été fait, évidemment c'est un diagnostic, pas sur toute la place, mais sur 3% de la place, donc ça laisse encore, justement, ça laisse la place, sans mauvais jeu de mots, à d'autres découvertes aussi.
Oui, c'est ça, en fait, c'est vrai que d'habitude, sur des diagnostics où on a plus de, on va dire, moins de contraintes, parce que là on est en milieu urbain, donc du coup c'est vrai qu'il faut vraiment composer avec tout ce qui existe en fait, mais en général quand on fait des diagnostics dans des champs ou dans un milieu plus rural, normalement on ouvre jusqu'à 10% de la zone, donc en fait on a un peu meilleure vision, donc là 3% c'est vraiment pas beaucoup, et la fouille va concerner environ 45% de la surface de la place, puisqu'il y a des impondérables et puis des choses qu'on peut pas éviter. Et puis en soi, en fait, on va fouiller là où le sous-sol sera impacté. On va fouiller là où on va enterrer des réseaux, là où on va enterrer des pompes pour faire fonctionner les jets d'eau et les fontaines. En fait, on va pas... si les vestiges ne sont pas menacés de destruction par la construction de quelque chose de nouveau, on n'a pas vraiment lieu d'y aller, en fait.
Donc ça veut dire que là, vous savez déjà quelle partie de la place, vous disiez à peine la moitié finalement, ce sera quelle partie plus précisément qui sera concernée ?
Alors il y a plusieurs secteurs qu'on va fouiller simultanément, enfin voilà, ça va être une logistique assez complexe, mais en tout cas il y a au niveau du square Foch, et puis voilà sur la partie nord-est de la place, des gros secteurs, et puis aussi plusieurs sondages qui vont être de plus petites dimensions, parce qu'on va être près des voies de circulation, donc ça va être compliqué, mais devant le parvis de l'hôtel de ville, devant l'espace de l'ancienne poste, voilà, et puis le long, vraiment, le long de ces espaces-là, quoi.
Ce qui est impressionnant, en tout cas de l'extérieur, quand on ne s'y connaît pas, c'est de se dire que ce sont des vestiges qui sont, d'après vous dire, encore en très bon état. Comment c'est possible que des siècles après, ce soit encore en si bon état sous nos pieds ?
C'est justement avec ce phénomène de remblaiement qu'il y a eu, parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas, au final, on a tendance à, une fois que voilà, les bâtiments, les constructions sont tombés en ruine, et au final, on récupère les matériaux, ou on arase, ou on va reconstruire par-dessus, mais finalement, il nous reste... De manière tangible, ce qu'on va pouvoir voir en archéologie, que les fondations. Alors qu'ici, comme il y a eu remblaiement, ça veut dire que tous les éléments qui étaient certes en ruine, mais qui n'avaient pas totalement disparu, en fait, vont avoir disparu sous les remblaiements, mais finalement, ils sont toujours là, ils n'ont pas été arrachés pour reconstruire autre chose.
Là, juste pour visualiser, c'est pas évident, mais il ne faut pas non plus s'imaginer qu'il y a une ville sous nos pieds non plus. Même s'il reste certains bâtiments encore en bon état, à quoi ça peut ressembler ce que vous allez trouver finalement ?
Voilà, évidemment, on ne va pas retrouver la ville de Laval telle qu'elle était au 15e, au 16e, au 17e. Mais par contre, on a vraiment toutes ces couches qui se superposent au cours des siècles. Donc, Voilà, on espère quand même, donc notamment les fondations des bâtiments, mais aussi bah, peut-être des niveaux de sol, des niveaux de circulation, donc qui sont beaucoup plus bas, comme je l'ai dit, que le niveau sur lequel on marche actuellement. Donc ils sont peut-être assez bien conservés, ça c'est ce qu'on va essayer de voir. Il va y avoir un peu un aperçu de plein d'époques de Laval différentes, parce que du coup, avant donc, la place du 11 novembre... Il y avait toute une série de bâtiments publics, on va dire, du coup une halle aux poissons circulaire qui faisait 19 mètres de diamètre, voilà, qui date du 18e siècle. Du 17e, on a un ancien hôtel particulier qui était la première mairie de Laval, qui se trouve juste un peu plus devant l'hôtel de ville actuel. Et donc là, voilà, ce qu'on a pu voir au diagnostic, c'est que bah il est toujours là, il est sous nos pieds, donc voilà, conservé. On verra sur quelle hauteur il est conservé. Ce sera pas le bâtiment en entier, évidemment, mais on s'attend quand même à une très bonne conservation des vestiges.
Et une fois que justement vous aurez des traces des monuments dont vous venez de parler, ces traces-là, très concrètement, qu'est-ce qu'il en sera fait ?
Tout ce qu'on va pouvoir prendre, prélever, c'est-à-dire tout le mobilier, parce qu'en fait on va trouver aussi beaucoup ce qui finalement s'apparente à des déchets, mais voilà, énormément de céramique, puisque voilà, c'est quelque chose qui est très très utilisé finalement jusqu'à l'arrivée du plastique chez nous, quoi. Mais du coup voilà, énormément de céramique, ça se conserve très bien dans le sol. Donc voilà, tout ce qui est mobilier, le céramique, le métal, l'os, le bois, le cuir, voilà, quand c'est des bonnes conditions de conservation, ça on va les garder avec nous, en numérotant bien et en gardant bien l'information de où est-ce qu'ils ont été trouvés. Tous les vestiges qui sont inamovibles, donc des murs, des tours, ça, on va faire un enregistrement le plus exhaustif possible, c'est-à-dire qu'on va dessiner des plans, prendre des photos, faire des dessins, faire des photos drones, etc., pour garder la trace la plus précise possible. Mais en fait, ça va rester là et ça va disparaître sous le nouvel aménagement. C'est ça un peu le drame, entre guillemets, des archéologues, c'est que, enfin en tout cas en archéologie préventive, c'est que ce qu'on fouille, ça va être détruit de toute façon. On n'intervient pas parce qu'on veut sauver des vestiges, les empêcher d'être détruits. Ils vont être détruits, mais nous, on les sauvegarde, on les préserve, on va dire, par la connaissance. Et en soi, si on veut, même nous, archéologues, si on veut aller voir ce qui se passe en dessous, les couches encore inférieures, ben on est nous-mêmes obligés d'enlever ce qu'il y a au-dessus. Donc en fait, c'est toujours des choix importants à faire, quoi, de qu'est-ce qui vaut le coup d'être gardé pour être bien enregistré, bien compris, etc. Ou qu'est-ce qu'on enlève pour aller voir plus loin. C'est pas toujours facile, quoi, de trancher.
Alors, question peut-être un peu et certainement naïve, mais si l'idée, c'est pas effectivement de préserver là tout ce que vous allez trouver, on peut se demander quel est l'intérêt justement de passer autant de temps à fouiller, à découvrir ce qu'il y avait sous cette place.
Justement, en fait, ça va disparaître de toute façon. Donc en fait, on en garde une trace qui va être à travers. À la fin, il y a un rapport de fouille qui est rédigé et qui a plus vocation à circuler entre les chercheurs. Mais finalement, il y aura aussi plein d'actions de valorisation pour un peu montrer aux gens de Laval ce qu'on a trouvé, parce que ça leur appartient aussi, quoi. C'est important de garder la trace de ce qu'il y a eu avant pour un peu comprendre d'où on vient, quoi, finalement. Finalement, on se rend compte que plus on avance dans les recherches, moins on comprend ce qui se passe, mais plus on se rend compte que il nous manque des informations. Donc certes, les textes, les sources historiques, ça nous donne des informations, les anciens plans aussi, mais au final, il y a plein de moments où on voit que ce qu'on a trouvé dans le sous-sol, dans le cadre d'une fouille archéologique, ça va plus ou moins corroborer ce qu'on a dans les plans. Et là, notamment, ce qui va être intéressant, ça va être aussi tout ce qui est activité artisanale, parce qu'on dit qu'on avait beaucoup de blanchisserie donc sur l'ancienne rive gauche, qui est maintenant rive droite, mais sur l'ancienne rive gauche de la Mayenne. Donc ça va être aussi voir comment ça s'organise, comment matériellement, concrètement, ça se passe, quoi. Pendant les fouilles, en fait, il y a tout un programme de médiation qui est prévu. Les informations seront disponibles via l'Office du tourisme, notamment. Tout sera gratuit et il y aura beaucoup de visites de chantiers possibles, donc notamment de deux par mois, voilà, où ce sera accessible à tous sur réservation. Via l'Office du tourisme, il y aura aussi beaucoup d'ateliers pour les scolaires, pour les centres de loisirs. On a toute une équipe de médiateurs qui travaille sur ce sujet-là, pour justement faire que l'archéologie, ce soit pas seulement un truc d'archéologue et de spécialiste, mais en fait que ça appartient à tout le monde et que tout le monde est concerné au final. Donc c'est important d'en parler le plus possible.
Vous l'avez compris, on ne connaît pas encore les dates pour les visites du chantier des fouilles archéologiques, mais vous pourrez trouver tous les renseignements auprès de l'Office du tourisme de Laval, et puis les découvertes au fur et à mesure, au fur et à mesure des fouilles archéologiques, tout simplement, seront à retrouver aussi à la Maison des Projets située 18 rue de Verdun, Maison des Projets qui est ouverte le lundi de 14h à 17h, le mercredi de 15h30 à 17h30 et le vendredi de 14h à 16h30 et puis aussi certains samedis, à peu près un samedi par mois, de 9h à midi, et le prochain ce sera le samedi 18 février. On fait une petite pause musicale assurée par The Black Keys avant d'entendre bien sûr notre rendez-vous incontournable du mardi, la chronique de Donatien. Issu de l'album du même nom des Black Keys dans l'AJT du local, toujours sur l'autre radio bien sûr, que vous pouvez écouter à Laval et ses alentours sur 101.7 et à Château-Gontier sur la fréquence 107.9. On va passer, comme je le disais juste avant, à la chronique de Donatien, et oui, comme chaque mardi, Donatien qui nous parle aujourd'hui sémantique ou de l'importance de parler de la deuxième marche du podium.
Finale France-Argentine. Au moment où Kylian Mbappé frappe le ballon, Donatien retient son souffle et c'est le but! Malgré cela, l'équipe de France n'accède pas à la première marche du podium. Kylian Mbappé termine second. Mais il gagne la même popularité qu'à une autre époque sur sa bicyclette, Raymond Poulidor. Allez, pou, pou, allez, pou, pou, criait Donatien, enfant, sur les épaules de son père, au passage du peloton. Donatien, aujourd'hui adulte, n'entend pas le même enthousiasme chez ceux qui, chagrins, se désolent de cette seconde place. C'est à cause du mot « second », peut-être. Donatien préfère la deuxième à la seconde, même si la seconde rime avec les années vagabondes, accéder en classe de seconde au lycée, passer la seconde au volant de la DS sur les genoux, cette fois-ci, de son père, restaurer 50 ans plus tard cette DS mythologique de 1975 avec une boîte de vitesse à pression hydraulique et s'offrir sur la corniche entre Cassis et Toulon, la tête d'Ariane posée sur son épaule, une seconde jeunesse. Est-ce pour l'euphonie que les journalistes sur les ondes délaissent la deuxième, discrète et prometteuse, pour la seconde, perdante et définitive? Est-ce parce qu'on prononce « seconde » avec le son « g », comme dans « gaillardise »,« gondole » et « bergamote »,« goguenardise » de la langue française? L'explication de cette bizarrerie consonantique et gutturale sur Google, qu'on écrit bien avec deux G, est tellement complexe avec un C qu'on y perd son latin. Corne de rox, ogé, ogé. Donatien ne déteste pas le sens imagé. Il est adepte du sens figuré et du second degré. Il sourit quand son frère aîné lui rappelle que, né d'un second mariage, il doit se contenter de jouer les seconds violons dans l'orchestre. Donatien s'amuse. Dans une bande dessinée, il serait le personnage qui, au second plan sur la vignette, glisse sur une peau de banane. Au cinéma, il serait bon pour les seconds rôles écrits tout petit au générique quand celui-ci ne défile pas dans l'ordre alphabétique. Même sur le radeau de la Méduse, Géricault, s'il y avait pensé, ne lui aurait laissé que la place de commandant en second. Peu importe, Donatien n'aime pas se mettre en avant. Il n'aime pas parader en tête. Il préfère être deuxième ou troisième ou rester au pied du podium. Mais à la fin des compétitions, il dédaigne la breloque censée consoler le second. D'autant que prononcer correctement « second » en respectant les consonnes et l'étymologie au masculin, ça rime quand même bêtement avec « ce con ». Alors, vive la deuxième vie, la deuxième chance et la deuxième marche du podium.
Il avait nos cornes de roc, ogé, ogé, tout le monde peut pas s'appeler Durand, ogé, ogé. Il avait nos cornes de roc, ogé, ogé, tout le monde peut pas s'appeler Durand, ogé, ogé. En le regardant avec un œil de poète, on aurait pu croire à son frontal de prophète, qu'il avait les grandes eaux de Versailles dans la tête, cornes de roc. Mais que le bon Dieu lui pardonne, ogé. Ogé, c'était celle du robinet. Ogé, ogé, que le bon Dieu lui pardonne. Ogé, ogé, c'était celle du robinet. Ogé, ogé, il proclamait à son de trompe à tous les carrefours. Il n'y a que les imbéciles qui sachent bien faire l'amour. La virtuosité, c'est une affaire de balourd. Corne d'oroc, il potassait à la chandelle. Ogé, ogé, des traités de maintien sexuel. Ogé, ogé, et sur les femmes nues des musées. Ogé, ogé, faisait le brouillon de ses baisers. Ogé, ogé, petit à petit. Ogé, ogé, on a tous eu de lui. Ogé, ogé, on a su qu'il était enfant de la patrie, qu'il était incapable de risquer sa vie pour cueillir un myosotis à une fille. Corne de roc, qu'il avait un petit cousin. Ogé, ogé, au placé chez les argousins. Ogé, ogé, et que les jours de pénurie, au gai, au gai, il prenait ses repas chez lui. Au gai, au gai, c'est même en revenant chez cet antipathique qu'il tomba victime d'une indigestion critique et refusa le secours de la thérapeutique. Corne d'Europe, parce que c'était à un Allemand. Au gai, au gai, qu'on devait le médicament. Au gai, au gai, parce que c'était à un Allemand. Au gai, au gai, qu'on devait le médicament. Au gai, au gai, il rendit comme il put son âme machinale, et sa vie n'ayant pas été originale, l'État lui fit des funérailles nationales. Corne d'Europe, alors sa veuve en gémissant, au gai, au gai, coucha avec son remplaçant. Au gai, au gai, alors sa veuve en gémissant, au gai, au gai, coucha avec son remplaçant. Au gai, au gai.
Et oui, Georges Brassens, pour finir évidemment cette chronique de Donatien aujourd'hui. Chronique que vous pouvez bien sûr réécouter sur notre site l'autreradio.fr ainsi que toutes les autres. Puisque oui, ça signe aussi l'émission, la fin de l'émission aujourd'hui, l'AJT du local. Restez sur l'autre radio, bien sûr, puisqu'à 19h, il y aura Sorcière avec en invité Adèle Gauthier. On vous proposera aussi de faire la fête chez Mémé pour une soirée prohibition et deux conseils lecture sont aussi à retrouver dans l'émission. Ce sera suivi à 21h de l'émission de Hip Hop Frères de Chaussures. Et nous, donc, on revient demain à 12h15. Je vous souhaite évidemment, bien sûr, une très belle journée.